Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Fall forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Courrier International rapporte que le blog anglophone Sploid a repéré une infographie qui regroupe joliment les 500 occurrences les plus tapées dans la barre de recherche des sites porno. C'est à Max Einstein, un infographiste patient ou passionné, que l'on doit ce travail de fourmi. Allons-y donc, plongeons-nous dans cette sphère de tag porn in English, vocabulaire que j'ai réussi à décrypter grâce à Thomas. J'en profite d'ailleurs pour le remercier pour son savoir et sa connaissance des internets. Le top 3 d'abord. Adolescent arrive troisième, fellation deuxième et le grand gagnant, hardcore. On apprend également que les brunes ont plus la cote que les blondes et c'est ensuite que le vocabulaire se diversifie. On retrouve donc tatouage, femme au foyer, bizarre, orgie, vieux, sans naturel, ghetto porn ou encore argentine. Voilà donc une idée de scénario si un réalisateur en manque d'inspiration m'entend. Une femme au foyer argentine, au sein naturel et tatoué, qui se ferait prendre par des vieux bizarres dans une orgie au milieu d'un ghetto.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, nous entendrons une interview du groupe Fragment de passage ce soir au Joker's Pub dans le cadre de la tournée des trans. Ce sera juste après la chronique Lance Torpille de Yann, mais d'abord...
Position, tandis que Madame Bibine s'avance sur le terrain pour le coup d'envoi. Les cognards sont lancés, suivis par le vif d'or. Je vous rappelle que le vif d'or représente 150 points. L'attrapeur qui saisit le vif d'or met fin au match. Angelina Jackson marque 10 points pour Gryffondor.
Vous venez d'assister à un bout du premier match de Quidditch d'Harry Potter, je vous rassure, il gagne à la fin. Pour ceux qui seraient nés avant 1985, le Quidditch c'est le sport officiel des sorciers dans Harry Potter. Un peu comme le baseball aux États-Unis ou le hockey à Angers. Bref, le Quidditch c'est essentiel à Poudlard, l'école des sorciers, si on veut s'intégrer. Et à Angers, une équipe est en train de se monter, on va en discuter ce soir, en compagnie de Colline Barrès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en première année à Lima, à l'UQO.
Oui.
Et à côté de vous, Marine de Léon Châtaignier, bonsoir.
Bonsoir.
En deuxième année à l'ESA.
C'est ça.
Alors d'abord, avant de parler du sport, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez découvert Harry Potter ?
Bon, moi j'ai découvert d'abord par les films. Ma sœur était très fan et je me suis lancée d'abord dans les films et puis c'est juste avant le dernier film de Harry Potter que je me suis mis à lire tous les livres d'un seul coup et voilà, j'adore, c'est super.
Vous êtes fan.
Oui.
Marine ?
Moi je l'ai découvert à partir des livres j'ai découvert à partir des livres et aussi à partir des films et d'abord j'ai lu tous les livres avant de voir les films.
Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet univers potteresque, on peut dire ça, potteresque, Yann ?
Ça se dit, je pense. Merci. Harry Potteresque.
Qu'est-ce qui vous a le plus ?
Bah, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est d'imaginer qu'il y a un univers juste à côté d'une autre qui avait plein de sorciers, de magie, qui est tout proche de nous, en fait. C'est ça qui me plaisait bien, c'est d'imaginer que... je recevrai peut-être une fois la lettre de Harry Potter, de Poudlard et tout ça.
À l'époque où vous avez lu le livre ou vu le film, est-ce que les matchs de Quidditch, c'était déjà quelque chose qui vous touchait particulièrement, qui vous intéressait, qui vous intriguait ?
Cela m'a intriguée justement de devoir voler au-dessus d'un champ pour aller chercher le vif d'or ou justement, c'était du football aérien. Pour moi, quand même, c'était quelque chose de spécial, mais j'avais jamais pensé de pouvoir transposer ça au niveau moldu.
Moldu, donc c'est les non-sorciers.
C'est ça.
C'est un peu nous.
Enfin, c'est nous, les humains.
Moi j'estime que je suis pas sorcière.
Un petit peu parfois, moi.
Et Colline, vous, les matchs de Quidditch, ça vous avait déjà interpellée ?
Alors, ça m'avait pas plus interpellée que ça, mais bon, je suis fan de l'univers, donc j'aime tout, en fait, dans l'univers de J.K. Rowling.
À l'époque, donc c'était encore de la fiction, et ça aurait pu en rester là, mais non. En 2005, le sport a été créé donc par des non-sorciers dans le Vermont aux États-Unis, sur un campus, et depuis 2007, il existe des championnats internationaux de Quidditch, donc moldus. Et cette année vient d'être créée la Fédération internationale. Vous avez été surprise d'apprendre que ça existait sur, sur le sol, quoi, pas dans les airs, le Quidditch.
Bah oui, forcément, oui, on a été surpris au départ, mais ça nous a pas étonné. Enfin, en y réfléchissant un peu, ça nous a pas vraiment étonné vu le nombre de fans qu'il y a dans tout le monde. Je sais plus, j'avais vu une interview où il y avait carrément des gens qui adoptaient. Enfin, en Inde, il y avait une baisse de la population de chouettes à cause de Harry Potter, justement.
D'accord.
C'était assez drôle.
Ça va loin.
Mais oui. Ça ne doit pas être évident de transposer, pour avoir eu l'idée de transposer ça au sol avec un balai. On ne vole pas, du coup. Il a fallu refaire les règles ou pas du tout
fin... Les règles, on va les décrypter tout à l'heure parce qu'il y a aussi le vif d'or. Je ne sais pas, Yann, si tu te souviens de ça. Le vif d'or, c'est cette balle qu'on doit
attraper. Des ailes.
Voilà.
Je me rappelle.
Qui n'existe pas non plus dans la vraie vie, figure-toi.
Mince.
Et du coup, oui, on va reparler des règles tout à l'heure.
Parce que c'est ce qui m'intéresse, moi, les règles, vraiment. Ben, j'adore les règles.
T'inquiète, on va y venir. Et en France, il existe une fédération française de Quidditch avec 20 équipes qui sont recensées. Alors, vous me disiez tout à l'heure, hors micro, qu'en fait, il y en avait qui étaient indépendantes de la fédération.
Oui.
Et la première équipe officielle française à avoir vu le jour, c'est à Nantes.
Oui.
Il y a un terreau. Comment ça se passe à Nantes? C'est particulièrement...
J'ai contacté quand même en premier l'équipe de Quidditch de Nantes. Et je sais qu'il y a une équipe pour les plus jeunes et une équipe pour les plus vieux, disons. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça.
Les seniors, non ?
Oui, pas les seniors, voilà. C'est à peu près tout ce que je sais, mais c'est...
Ça vous est venu comment, cette idée de créer ça à Angers ?
Bah, le fait, justement, qu'il n'y ait pas d'équipe à Angers de Quidditch est juste... Le potentiel qu'il pourrait y avoir, vu que Angers est une ville étudiante, et donc, comme ça, c'est surtout les étudiants qui sont fans d'Harry Potter.
Et puis que ça s'est créé sur les campus aux États-Unis,
oui, pourquoi
pas
aussi.
Infuser ça à Angers. C'est quoi les conditions à réunir alors pour créer cette équipe-là ? Parce que là, pour l'instant, vous êtes toutes les deux à lancer l'idée.
Oui.
C'est quoi l'objectif ? Faut arriver à combien de personnes ?
Faudrait arriver au minimum à 7 personnes, ce serait bien. 8, ce serait l'idéal. 7 personnes pour justement 3, un attrapeur, 3 poursuiveurs, un gardien et 2 batteurs.
Donc mais, il faut 7 personnes.
Oui, 7 personnes minimum et maximum 8 personnes pour le vif d'or justement.
Qu'on abordera tout à l'heure. Yann, tu auras plein de questions à poser.
Des équipes mixtes ou pas mixtes plutôt ?
Oui, ouais, oui.
D'accord. On ne fait pas de différence.
Ça, c'est un avantage justement des équipes de Quidditch, c'est qu'elles sont mixtes contrairement à tous les sports.
Et est-ce qu'il faut être forcément fan de J.K. Rowling et de l'univers d'Harry Potter pour venir s'inscrire ?
Pas du tout.
Ça s'adresse à tout le monde ?
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des noms d'équipes, des cris de guerre, des symboles pour chaque équipe, comme on se souvient des écoles de Poudlard ?
Gryffondor ? Serpentard,
il
me manque une serre d'aigle.
Et il y en a quatre.
Pouf souffle, ouais, c'est ça.
Alors, est-ce qu'il va falloir à Angers créer son nom d'équipe ?
Oui. Pour l'instant, moi, je suis. J'ai créé une page Facebook équipe de Quidditch d'Angers, mais j'attends en fait d'avoir vraiment une idée et d'avoir assez de personnes pour décider du nom exactement.
Que ça soit un peu démocratique, cette équipe de Quidditch en juin. Écoute Yann, on va parler des règles juste après.
Super.
Wunderbar avec Greenland.
People to be, well, I guess, Alors au départ, ce sport n'était réservé qu'aux fans absolus d'Harry Potter.
Bienvenue.
Comme Rachel, 20 ans, qui vit à Waterloo et qui n'a cessé de collectionner depuis l'enfance tous les objets liés à l'apprenti sorcier. Chez Rachel, tout est magique, même les murs qui ont disparu derrière les posters.
Donc ici, c'est le mur Hermione.
Pour notre fan inconditionnel, impossible de résister à l'appel du Quidditch. Avec son accessoire indispensable, le balai bien sûr. Pour jouer au Quidditch, la jeune femme a fait le choix d'une simple tringle à rideau, achetée en supermarché.
Le mieux, c'est se sentir à l'aise avec son balai en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais ne faire plus qu'un avec le balai en fait.
Un reportage de 100% Mag sur M6, un extrait. Car ce soir, nous parlons de la future équipe qui est en train de se construire de Quidditch sur Angers, en compagnie de Marine et Colline. Alors, un point sur les règles du Quidditch.
Ouais, les règles.
C'est pour toi, Yann.
Merci.
J'y vais, je me lance. Les équipes sont constituées de 7 joueurs, 3 poursuiveurs qui tentent de marquer des buts avec une balle qui s'appelle un swaffle. Un but égale 10 points. Voilà. Deux batteurs qui éloignent les cognards, qui sont des balles agressives qui viennent essayer de vous embêter quand vous essayez de marquer des buts. Un gardien, forcément, et un attrapeur chargé d'attraper le vif d'or, cette petite balle en or qui vole dans tous les sens. Et dès que l'attrapeur a attrapé le vif d'or, eh bien la partie est finie, son équipe gagne 150 points. Et comme le précise la page Wikipédia du Quidditch, un match peut durer des mois et comporte des risques mortels pour les joueurs. Ça, évidemment.
À ce point-là. Attention.
Bon, parmi les règles, évidemment, il n'y a pas de limite d'altitude et les baguettes magiques ne doivent pas être utilisées contre l'équipe adverse, l'arbitre, les balles ou encore la foule. Mais ça, ce sera pour plus tard, quand la technologie aura évolué. Bon, là, forcément, on se dit que c'est pas gagné sur le papier. Et comment...
C'est pas évident à comprendre, ouais, comme ça.
Et comment on adapte ça,
ouais, cette question, par exemple, sur les cogneurs et tout, enfin...
Voilà. Alors Yann, ta question sur les balais, je crois que c'est le moment de la poser.
Ouais, les balais, comment on fait pour voler avec des balais alors qu'on ne peut pas voler avec des balais en Quidditch?
Alors en fait, on espère qu'un jour, on pourra faire voler les balais. Bon, c'est un peu mal parti, mais en fait, on joue quand même au sol avec un balai entre les jambes et on le tient et puis c'est tout.
Donc en fait, c'est plutôt une gêne, le balai.
Oui, justement, ça rajoute une difficulté un petit peu dans le...
Faut le tenir avec une main et entre les jambes ou juste sans les mains et faut courir comme ça?
Non, une main.
Avec une main.
Je me suis renseignée, il y a différentes techniques pour tuner son balai. Enlever les brosses derrière ou alors choisir un balai léger en bambou. Ou alors, comme on a entendu dans le reportage, prendre une tringle. Est-ce que vous avez déjà imaginé votre balai ou vous n'en êtes pas encore là, Marine?
Bah, j'ai déjà essayé de chercher à peu près qu'est-ce que je pourrais prendre comme balai, mais pour le moment, j'ai pas trouvé. Les idées sont encore un peu vagues.
Bah, c'est vrai que c'est pas recommandé non plus de prendre un balai qui vient directement de l'imaginaire de J.K. Rowling, parce que c'est vraiment un inconvénient, parce que c'est très lourd, et c'est pas le but, justement.
Et en termes de vif d'or, de cognard, justement, comment ça marche? Parce que... on ne les a pas trouvés encore, les vrais vifs d'or. Alors justement, comment est-ce que vous les adaptez sur le sol pour les Quidditch dits moldus?
Tu y vas ou non?
J'y vais. Donc déjà, pour le vif d'or, c'est une personne. Mais cette personne n'aura pas de balai entre les jambes. Donc il courira tout le match. Et justement, les deux chasseurs...
Les attrapeurs.
Oui.
Attends, il y a tellement de termes. On s'y perd, c'est pas évident.
Oui, c'est surtout ça que je suis stressée.
C'est pas grave.
Donc les deux attrapeurs devront aller poursuivre le vif d'or, mais comme justement la contrainte du balai, ils ne pourront pas courir aussi vite derrière le fameux vif d'or.
Alors le vif d'or, c'est donc une personne, voilà.
Et
les cognards, alors en fait, c'est des simples balles que quand le poursuiveur les reçoit, il a l'obligation de laisser tomber le swaffle à terre.
Le swaffle qui est donc la balle qui marque les buts.
Voilà. Il y a aussi une précision par rapport au vif d'or. Quand on, dans le film, on reçoit 150 points pour le vif d'or, alors que dans le Quidditch moldu, on reçoit 30 points.
Donc d'accord, c'est plus mesuré, quoi.
Oui.
Au final, ça ressemble à quoi comme sport? Parce que bon, dans les airs, tout ça, on s'imagine bien, mais sur Terre, à quoi ça ressemble et à quoi ça peut s'apparenter?
Alors oui, on a essayé de trouver. Au niveau de la rapidité, moi, je dirais quand même un peu comme le basket. Après, ça ressemble aussi un petit peu au... Tu disais quoi?
Au handball.
Le handball, voilà. Plus pour les tirs ou pour gagner des points.
J'imagine ça un peu, moi, comme du hockey sur gazon, un peu. Parce qu'il y a cette différence que normalement sur le hockey sur glace on glisse et là on court avec justement avec une je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs personne ne m'aide, merci.
Une crosse
et du coup ça fait un peu bizarre quand on voit des gens courir une crosse, ça doit ressembler un petit peu à ça je pense.
Sauf que là la crosse elle est entre les jambes.
C'est ça.
Et est-ce que ça ressemble pas aussi à la, est-ce qu'il y a pas un côté rentre dedans comme au rugby? Non.
Le cognard, si un peu, tout oui. Ça si un peu. Je sais aussi que le vif d'or, j'ai regardé sur certaines vidéos sur internet, le vif d'or, de temps en temps, on le voit aussi jeter plein de choses à la figure des attrapeurs, justement, pour éviter qu'ils le rattrapent. Donc ça peut aussi s'apparenter un peu au rugby, parce que c'est quand même très physique de ce côté-là.
Alors, il existe des compétitions de Quidditch moldu ou Muggle Quidditch si vous êtes bilingual, des championnats du monde, des Jeux mondiaux qui s'apparentent un peu aux Jeux olympiques, des championnats d'Europe. La Coupe d'Europe a eu lieu cette année, ou le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe, et oui. Pas très loin à Bruxelles. Il y avait 4 équipes françaises parmi les 12 équipes participantes. C'est quand même que la France, elle est présente sur le terrain du Quidditch, non?
Oui.
En Europe. Et par contre, aux États-Unis, bon, bah, là, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup d'équipes de Quidditch. Pour avoir un ordre d'idée, le Middlebury College a été 6 fois champion du monde et l'Université de Texas 2 fois. Est-ce qu'on battra un jour les Américains?
Alors, ça, c'est pas sûr, vu le nombre d'équipes, justement, qu'ils ont là-bas. Tout est centré autour des campus et du coup, dès qu'il y a une équipe à former, ils sont tous vraiment à fond. On voit très bien, dans les films, on voit quand même un petit peu cet esprit vers le sport et vers... vers le sport en général.
Une espèce de corporation qui se crée autour des campus, en fait, qui n'est pas la même, qu'on ne retrouve pas forcément dans les universités françaises, quoi. Et donc, est-ce que ça pourra un jour se transformer? Est-ce que le Quidditch prendra autant de place qu'en France? C'est pas forcément gagné.
En ce moment, non. Mais bon, on peut toujours espérer.
Colline, vous expliquiez tout à l'heure que votre frère était étudié aux États-Unis. Est-ce qu'il a déjà été voir des matchs de Quidditch? Et est-ce qu'il vous a raconté à quoi ça pouvait ressembler?
Alors, il me semble qu'il m'a raconté qu'il avait vu la fin d'un match de Quidditch de son université. Il avait trouvé ça assez étrange et tout ça, mais quand il a entendu parler que moi je voulais faire une équipe de Quidditch, il m'a dit « C'est vrai que c'est très populaire aux États-Unis, j'en ai vu une et tout ça. Enfin, »
Il vous a plutôt encouragé.
Oui, oui. Et il m'a donné beaucoup de conseils.
Moi, j'ai une autre question. Est-ce que ça coûte cher de faire du Quidditch? Parce que, à part le balai en soi, par exemple, les cognards, est-ce que c'est des cognards officiels? Est-ce qu'il y a des choses à acheter? Ou alors une simple balle, ça suffit
Oui, des balles, principalement. Enfin, oui, c'est surtout les balles. Les cerceaux, enfin...
Les cerceaux, on peut les fabriquer avec des cerceaux pour le wallop et des bâtons, et c'est bon.
Ouais, donc c'est pas très cher en soi comme sport.
Ici, il y a juste une contrainte, c'est on est obligé de porter des capes. Bon, en général, ils ont des toutes petites capes, mais c'est juste une contrainte. Et puis, bien sûr, les balais. Moi, c'est surtout ça qui me...
Donc c'est un sport qui est accessible à tous, quoi.
Oui.
Et on peut commencer à quel âge? N'importe quel âge,
c'est ouvert à tout le monde.
Parce que par exemple, si un collégien de 15-16 ans ou un professeur d'université se dit « Tiens, moi je ferais bien du Quidditch », et qui vous contacte, il n'y a pas de souci?
Alors, le problème, c'est qu'au niveau de l'âge, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire... pour les mineurs, c'est un peu plus compliqué, étant donné que s'il leur arrive quelque chose, il faut qu'on le gère... Tout ça, pour l'instant, on n'en est que là, donc pour l'instant, on accepte que les gens de plus de 18 ans, mais on espère qu'un jour, on pourra peut-être...
ouvrir une équipe de juniors. Alors, pour récapituler, où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on est intéressé pour faire du Quidditch?
Déjà, la page Facebook, donc équipe de Quidditch d'Angers. Sinon, mon adresse mail.
Qui se retrouve sur la page
Facebook. Qui se retrouve sur la page Facebook.
D'accord.
Et éventuellement aussi, on avait prévu de peut-être de faire des essais de Quidditch sur différents campus. On sait pas, on n'est pas encore d'accord là-dessus. On a encore du mal à imaginer ça, mais on a prévu ça. Donc on va sûrement mettre des affiches pour ça, où il y aura justement mon mail et la page Facebook.
Très bien. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Marine et Colline, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et donc, toutes les infos, c'est sur la page Facebook Équipe de Quidditch d'Angers. Merci encore.
We know the moves, the bow, the dip, the woo. Though the words are true, the state is old news. Wrap me in your arms, I can't feel it bud. Rock me in your arms, I can't feel it, but get up, get down, get up, get down. Feel the rotation start, see the next one waking. Get up, get down, get up, get down, get up. Sentiments are same, but the pair of feet change. I know my words will dry upon the skin. Just like a name I remember hearing. Wild winter, warm coffee, mom's gone. Do you love me? Blazing summer, cold coffee, baby's gone. Do you love me? Wrap me in your arms, I can't feel it burn. Rock me in your arms, I can't feel it hurt. Get up, get down, get up, get down. Feel the generation and start, see the next one waiting. Get up, get down, get up, get down, get up. Get up, get down, get up, get down. Be the general rotation and stop, see the next one waiting. Get up, get down, get up, get down, get up. Sentiments seem to perfect change. Get up, get down, get up, 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 get up
Kofi Sylvanesso.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et à présent, dans le sous-marin, on retrouve la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ce soir, je ne vous parlerai pas d'une des innombrables magouilles de personnalités politiques. Ce soir, je ne vous parlerai pas non plus du dernier quelconque buzz lié à la sphère nabilesque ou tout autre fait divers déprimant. Ce soir, je ne vous donnerai pas non plus une critique de l'actualité, même si cette dernière regorge de sujets croustillants, comme chaque semaine. Non, ce soir, il est temps de souffler. Il est si bon parfois de savoir respirer, être plus léger. Alors attention, ne vous méprenez pas, ce bilan estampille va quand même avoir lieu. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ce soir j'ai décidé de me confier. Me voilà intégré à l'équipe du sous-marin depuis bientôt 6 semaines, un climat de confiance est installé entre nous et dans cette équipe également. Il est donc temps pour moi de m'ouvrir.
Tu veux nous raconter ton enfance, Yann ?
Non, pas du tout. En ce mercredi 19 novembre 2014, j'ai enfin décidé de chasser un de mes démons quotidiens en me confiant à vous. Ce démon, je le croise tous les jours dans la rue. Tiens, par exemple, hier, en allant chercher mon paquet de clopes au tabac du coin, je l'ai croisé. Mais aussi, quand je passe devant l'école primaire, près de mon appartement, quand je rentre de la fac, je le croise. Une autre fois, en centre-ville, un soir, dans un bar en after work, je l'ai croisé. Bref, il pullule et pollue notre ville et toutes les villes de France et de Navarre, à vrai dire.
Ok, le suspense a assez duré. C'est qui, ce démon, à la fin ?
Ou plutôt, c'est quoi ? Ce démon, c'est la trottinette. Oui, auditeur, auditrice, vous avez bien compris, j'ai dit la trottinette. Ancêtre bien moins coûteux du Segway entre le skateboard, le déambulateur et le balai de Quidditch, petit clin d'œil, hein, vous pouvez pas voir, l'ignoble trottinette envahit nos rues. Habituellement réservée aux enfants ou aux trotty-riders, ça existe, la trottinette est aujourd'hui récupérée par des citadins trentenaires ou quadras, nostalgiques d'une jeunesse bien lointaine. Mais le pire, c'est que ça s'étend, c'est une contagion bien plus grave et épidémique qu'Ebola. Tout le monde s'y met à
Yann,
la trottinette.
Yann, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ton enfance avec une trottinette. Est-ce que tu veux nous en parler ?
C'est juste que... c'est ridicule la trottinette, rien que le nom est ridicule, trottinette. Sérieux, il y a des mecs dans un service marketing qui ont fait 5 ans d'études qui se sont dit que ça claquait comme nom. Et puis, sincèrement, est-ce que vous vous êtes déjà dit en croisant un mec faire de la trottinette ? Putain, trop la casse, le mec cheveux au vent et sac en bandoulière sur l'épaule sur sa trottinette en alu. Non, on dit pas ça. Non, personne ne dit ça. On se réveille. Tu peux même pas foutre tes deux grosses pompes taille 43 en entier sur le plateau entre les roues et t'as le dos pété parce que le guidon réglable est à sa taille maxi à la hauteur de tes genoux. C'est aussi swag qu'un dimanche après-midi pluvieux devant DNCO. Oui, c'est du vécu, je sais de quoi je parle. Tous les gosses que tu croises te prennent pour un ringard, comme quand tu les appelles « Salut les Jones ». Tu sais, faut se rappeler qu'à la base, la trottinette, c'est le cadeau empoisonné que tes parents t'offrent pour ton 12e anniversaire, alors que tous tes potes font des ollies au skatepark sur la dernière planche à roulettes stylées. Et puis, les adeptes de la trottinette vont me dire « Oui, mais Yann, t'exagères, tu sais, en ville, c'est pratique, ça passe partout, c'est transportable, ça se plie et tout. » Faux ! Complètement faux, vous avez tort, j'ai raison, point barre. Déjà, de 1, parce que même plier, ça prend de la place. De 2, parce que c'est lourd. Et de 3, parce que t'avances pas une bille quand t'es dessus. Et en plus, t'as l'air con. Ça, c'est bonus.
Yann, c'est juste qu'aujourd'hui, la trottinette, c'est à la mode.
Je sais, c'est un peu réac, mais ce soir, je voulais dénoncer. J'ai pas peur des pressions possibles du lobby international de la trottinette. Moi, au moins, le jour où les trottinettes auront envahi chaque pays, chaque région, chaque ville, chaque foyer, je pourrais dire, j'ai osé, j'ai résisté à l'envahisseur, au démon pour la France. En ce mercredi 19 novembre, tel un certain Charles, un soir de 18 juin, et j'ose faire la comparaison, j'appelle à la lucidité de chacun d'entre nous pour se battre face à la trottinette dans nos rues. No pasaran, todo está aquí. Merci à tous, et à la semaine prochaine.
Merci Yann, l'homme qui continue à dire DNCO au lieu de DECO, alors que même Valérie D'Amido
dit... On dit DNCO, D'Amino et compagnie, c'est obligé, c'est de la logique.
Le débat reste ouvert.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce soir, le groupe Rennais Fragments sera en concert au Joker's Pub, l'occasion pour Thomas de passer un coup de fil à Benjamin Le Baron, membre du groupe.
Alors nous sommes en compagnie de Benjamin Le Baron, musicien dans la formation pop electronica Fragments. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors initialement, Fragments, c'est un duo qui est plutôt destiné à la composition. Vous êtes désormais accompagné en live par Tom Baudouin, guitariste de Piranha. Est-ce que vous avez effectué une sélection précise pour faire appel à ce guitariste ou est-ce qu'il s'agit d'un ami ?
Eh ben, en fait, à la base, Tom, c'est un ami et il jouait avec moi dans mon précédent groupe qui s'appelait F-Hero, un groupe de pop, électro-pop qu'on m'avait formé sur Rennes. Et du coup, quand le groupe s'est arrêté, que moi j'ai commencé à travailler avec Sylvain dans Fragment, le choix s'est imposé assez vite. On a fait quelques essais avec Tom pour être bien sûr que c'est ce qu'on voulait, que lui aussi voulait faire ce type de musique. Et comme on s'est assez vite rejoint sur les influences, le son qu'on voulait avoir et l'énergie qu'on voulait apporter sur scène, ça a tout de suite collé.
Alors dans quelle mesure est-ce qu'il intervient dans le groupe, dans la composition? Est-ce qu'il a juste sa place en live ou est-ce qu'il est complètement membre?
Ah oui, non, maintenant il fait vraiment partie du groupe. À la base, c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, Fragment c'était un duo, donc juste Sylvain et moi à la base. Et une fois que Tom est rentré dans le groupe, on était tous d'accord pour se dire que Fragment c'était devenu un trio. Et il apporte aussi bien du coup sa touche en live que dans les compositions. C'est vraiment un trio à part entière désormais. Et on compose et on travaille tous les trois.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine du groupe? Quelle était l'envie lorsque le groupe s'est formé, donc à la base en duo?
Eh ben, Sylvain et moi, on s'est rencontrés par des amis communs. On est arrivés tous les deux à un tournant dans nos envies et dans nos vies musicales. Et du coup, on avait vraiment une envie de créer un groupe instrumental uniquement, basé sur du piano. Donc à la base, le piano prenait une grande place dans la composition. Et sur des petites touches de musique électronique assez fines et pour d'une musique assez ambiante, assez éthérée. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le projet et finalement on a mis les premières compositions qu'on avait faites sur internet pour avoir l'avis de nos amis, de quelques professionnels qu'on connaissait, et tous nous ont encouragés donc à essayer de développer ce projet-là pour la scène. Donc c'est un peu comme ça que Fragment est devenu ce qu'il est maintenant.
Alors concernant vos influences, sur votre page zikard.com/fragment, on peut lire dans votre biographie que vous tirez vos influences principales de la musique nordique. Personnellement, moi quand je lis ces termes, la musique nordique, je me dis que vous êtes influencé par le black metal. Mais je pense que c'est pas trop le cas, votre musique est beaucoup plus douce que ça. Alors je voulais savoir quelles étaient ces influences.
Principalement, quand on parle de musique nordique, on parle de soit des groupes d'Allemands, soit enfin, des groupes d'Allemagne, pardon, des gens comme Nils Fram, Apparat, mais également des groupes comme Mogwai ou Sigur Rós. Toi, on essaie d'en
des signatures un peu plus rock déjà.
Oui, voilà, mais on est à mi-chemin entre ces différents univers, donc des choses électroniques assez douces, assez éthérées. Un artiste français qu'on peut citer, qu'on aime beaucoup aussi, c'est Saïset. Qui n'a pas tardé à sortir son nouvel album d'ailleurs, qu'on attend avec impatience, et des choses un peu plus rock. Donc, par exemple, quand Tom est arrivé dans le groupe et qu'on a voulu donner une touche plus rock pour la scène, c'est vers des groupes comme Mogwai qu'on s'est vraiment tourné au niveau du son. Voilà, une espèce de son post-rock assez énergique, assez puissant. Il y a aussi pas mal de groupes américains qu'on aime beaucoup, des choses comme Explosion in the Sky ou toutes les écuries canadiennes de Constellation, Godspeed You, tout ça. Enfin, des choses très à mi-chemin entre post-rock et musique électronique.
D'accord. Vous êtes en tournée pour une dizaine de dates d'ici 2015, notamment en compagnie de la tournée des Transmusicales. Vous passerez par Angers au Joker's Pub ce soir et par Nantes au Stéréolux le 20 novembre, donc le lendemain. Comment s'est déroulée votre collaboration avec l'ATM, donc l'Association des Transmusicales de Rennes?
Eh ben en fait, on a eu la chance de participer au Printemps de Bourges cette année via la sélection des Inuits du Printemps de Bourges. Et du coup, Jean-Louis Brossard, le programmateur des Transmusicales, était dans la salle. Et a priori, j'ai dû bien apprécier notre concert vu qu'on a reçu un mail quelques temps après pour nous demander si... On acceptait de faire partie de la programmation des Transmusicales. Donc comme on a compris, on a eu la chance en plus d'être accompagné directement par l'ATM via le dispositif tournée des Transmusicales. Donc effectivement, il y a quelques dates, avec 5 dates en tout. Donc tu parlais de Nantes, Brest également, Vannes. Donc voilà, donc on est bien sûr ravis de faire ces dates pour les transmusicales et de participer aux transmusicales.
Ouais, en effet, c'est flatteur. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être programmé justement dans le cadre de la tournée des trans? Est-ce que pour vous c'est un tremplin ou une opportunité, un concert comme les autres? Je sais pas.
Non, c'est, en plus, en tant que Rennais, parce qu'on est tous les trois Rennais, ça représente quelque chose d'assez fort. C'est un peu un rêve de gamin qui se concrétise. On est tous allés voir des concerts en transmusicales en se disant un jour, j'aimerais bien y être. Puis bon, voilà, finalement, on y est. Et puis de manière plus pragmatique, c'est également aussi un bon moyen de se constituer un réseau et puis de nous permettre de rencontrer des professionnels, donc des labels, des éditeurs, tous ces gens-là. On sait très bien que ça draine le milieu professionnel, ce genre de festival. Et pour nous, donc c'est un moyen donc de mettre un coup de projecteur sur notre projet via ce concert.
Je rappelle que votre musique est instrumentale et qu'elle se prête, à mon goût, je trouve, à pas mal d'univers, notamment le cinéma ou le jeu vidéo. Est-ce que vous envisagez de travailler en collaboration sur d'autres projets de bandes originales, par exemple, que ce soit, donc, comme je le disais, dans le cinéma, dans le jeu vidéo? Et si oui, dans quel projet?
Alors, nous, on adorerait ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent à nous, n'hésitez pas. Mais là, dans un premier temps, sur la première partie de l'année 2015, on va se concentrer d'abord sur l'écriture de notre premier album. On va se poser un petit peu, arrêter les concerts pour pouvoir du coup composer, enregistrer. Et c'est vrai qu'après, s'il y a possibilité, on a déjà eu des propositions pour faire des ciné-concerts ou des bandes originales, des choses comme ça. Bien sûr, on est ouvert à tout. Moi, je sais que je suis plus branché jeux vidéo que les autres, mais Sylvain et Tom adorent, sont des grands cinéphiles, donc on est ouvert à tout type de projet, et puis on adorerait ça.
Concernant les projets, vous êtes donc issu d'autres formations, donc parmi lesquelles Piranha, The Last Morning Soundtrack. Est-ce que vous laissez complètement de côté ces projets, ou est-ce qu'il y a un équilibre à trouver?
Non, justement, on laisse pas ça du tout de côté. Sylvain va pas tarder à sortir son deuxième album avec The Last Morning Soundtrack. Tom continue toujours aussi à enregistrer, à produire des choses avec Piranha. Et moi, je joue dans un groupe d'électro qui s'appelle Magnetic Days et avec lequel on va également sortir un EP début d'année prochaine. Donc tu vois, on essaye de jongler entre tous nos différents projets. Donc bien sûr, comme il y a beaucoup d'actualités sur Fragments en cette fin d'année, c'est notre... C'est notre priorité, hein, bien sûr. Mais c'est une question d'agenda et puis d'envie, d'inspiration. Chaque projet va un peu nourrir l'autre. C'est important en même temps de garder contact avec nos différents autres projets.
On rappelle que Fragment sera en concert ce soir au Joker's Pub à Angers et le 20 novembre à Nantes au Stéréolux. Merci Benjamin pour votre participation.
Et merci à vous.
Fragment en concert ce soir au Joker's Pub, donc dans le cadre de la tournée des trans, suivi d'un set des discos et d'un set d'Henri Van Partey. Tout de suite, on écoute un morceau pour se mettre en mouvement. December Sun de Fragment.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et la perme de ce soir, eh ben, je me répète, c'est donc au Joker's Pub à 21h dans le cadre de la tournée des trans. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, dans l'émission sportive Ta gueule Coubertin, Charlotte a interviewé Julien Albert, capitaine de l'équipe des Ducs d'Angers. Voici un extrait. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être capitaine ?
Écoutez, ça représente pas mal de choses. Surtout que j'ai porté que ce maillot-là, donc ça représente beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi l'aspect familial qui rentre en compte, puisque c'est mon grand-père, notamment, qui a fondé le club il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, c'est une affaire de famille. Le hockey chez moi, donc ça représente pas mal de trucs, ouais.
Donc pour en revenir à l'équipe, en fait, vous avez assisté à un changement de coach en début de saison, Simon Lacroix ayant laissé son poste pour des raisons de santé. Comment est-ce que vous et même l'équipe avez vécu ce changement ?
Moi, en l'occurrence, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a un gros turnover sur les coachs.
Vous avez connu beaucoup de coachs.
J'ai connu beaucoup de coachs, donc moi ça m'affecte de moins en moins, on va dire. Même si voilà, c'est jamais souhaitable pour une équipe qui se met en place, qui doit mettre son système en jeu. On n'a jamais vraiment envie de changer de coach. C'est arrivé là au début d'année, on fait avec. Maintenant, c'est à nous de nous adapter au coach, à lui de s'adapter à l'équipe, à ce championnat qu'il connaît pas forcément, à cette équipe qu'il a pas forcément choisi non plus. C'est pas lui qui a fait le recrutement, donc il y a pas mal de choses qui ont dû être mises en place et ça continue petit à petit. Voilà, on s'adapte, on met les choses en place et j'espère que malgré ce début de saison un peu en dents de scie, ça va aller de mieux en mieux jusqu'à la fin de saison.
Vous pouvez réécouter la totalité de l'interview et du programme sur le www.radiocampusangers.com. Et dans 10 minutes, dès 20h, retrouvez Pas de panique, l'émission geek de Radio Campus Angers. Salut Profi.
Salut Tiffen.
Alors de quoi ça cause ce soir ?
Ce soir, émission exceptionnelle, on retrouve Stiker, un ancien de Pas de panique de la 3ème saison, et on parle explosion.
Explosion, gros programme.
Oui,
vous n'allez pas faire péter la radio quand même.
On compte bien.
Dès 20h sur le 103 FM. Nous, on se retrouve demain, dès 19h. Nous évoquerons la journée mondiale des violences faites aux femmes. Merci à Yann, merci à Thomas qui a co-préparé l'émission. Et merci à Maëlle et à David pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.